Nous vous souhaitons la bienvenue à la réunion générale de la Société de secours de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous saluons la présence de Thomas Monson, président de l'Église, qui préside cette réunion. Il est accompagné de ses conseillers, Henry Biering et Dieter F. Ohrdorf. Je suis Julie Beck, présidente générale de la Société de secours. Je suis accompagnée de mes conseillères, Sylvia Allred et Barbara Thompson. Nous saluons la présence de Neil L. Andersen, du Collège des Douze Apôtres, de Craig C. Christensen, des 70, et de David Burton, évêque-président. Sont aussi sur l'estrade des membres du Bureau général de la Société de secours et les présidents généraux des jeunes filles et de la primaire. Nous vous remercions de votre présence à cette réunion historique et nous exprimons notre gratitude à toutes les sœurs et dirigeantes de la Société de secours du monde entier qui consacrent leur vie à cette grande œuvre. La Société de secours est dans sa 170e année et compte maintenant plus de 30 000 sociétés de secours dans plus de 175 pays. Aucune organisation ne lui est comparable dans le monde entier. Nous remercions les personnes qui vont interpréter la musique de cette réunion. Le chœur se compose de sœurs de la Société de secours de Pieux, de Eagle Mountain et de Saratoga Springs en Utah, sous la direction d'Emily Wadley, avec Bonnie Goodliffe et Linda Margetts à l'orgue. Le chœur va commencer cette réunion par le cantique « Le jour paraît ». Ensuite, Barbara Sebraccio, membre du Bureau général de la Société de secours, fera la prière d'ouverture.
Oh! Our Father in heaven,
notre Père céleste, nous venons au début de cette réunion de Société de Secours d'exprimer notre reconnaissance d'être réunis sous la direction de notre prophète. Nous sommes reconnaissants d'avoir Président Monson et Sœur Monson, leurs enfants, leurs petits-enfants. Nous sommes reconnaissants d'avoir le président Ayring et le président Ohrdorf, et nous te demandons de les bénir ainsi que leur famille. Nous te remercions pour la présidence de la Société de Secours, Sœur Beck, Sœur Thompson, Sœur Elred, et nous te demandons de les fortifier et de les bénir dans leur service. Nous te sommes reconnaissants, Père, du rétablissement rétabli du prophète Joseph, de la Société de Secours, et de la fraternité mondiale que nous ressentons. Nous te remercions pour toutes les femmes fidèles partout dans le monde et toutes celles qui sont décédées maintenant. Nous te remercions tout particulièrement, Père Céleste, de ton Fils bien-aimé. Nous te remercions de son sacrifice expiatoire et nous te prions de nous aider à nous souvenir de lui, à le suivre. Aide-nous, Père, à avoir ton esprit avec nous ce soir, afin que nous puissions bien comprendre, pour que notre témoignage puisse être fortifié, que notre foi puisse être fortifiée. Nous t'exprimons notre amour, notre dévouement, Père. Nous t'aimons. Et nous disons cela au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you for that beautiful prayer and for the beautiful.
Merci de cette prière et de cette belle musique. Je vais maintenant avoir l'honneur de vous faire un discours, après lequel le chœur interprétera « Douce est la tâche, ô Dieu mon roi ». Ensuite, Sylvia Allred s'adressera à vous. Elle sera suivie de Barbara Thompson. Puis le chœur et l'assemblée chanteront « Peuple du monde, écoutez donc ». C'est un honneur de prendre la parole devant vous à cette réunion historique. C'est une bénédiction pour nous d'être ensemble. Pendant mon service en tant que présidente générale de la Société de Secours, j'ai acquis un profond amour pour vous, les sœurs de la Société de Secours de cette Église. Et le Seigneur a élargi ma vision de ce qu'il éprouve pour nous et de ce qu'il attend de nous. J'ai intitulé ce message « Ce que j'espère que mes petites filles comprendront au sujet de la Société de Secours ». Mes petites filles les plus âgées travaillent activement à leur progrès personnel et acquièrent les habitudes et les traits de caractère de femmes qui vivent selon la justice. Bientôt, leurs camarades et elles endosseront la responsabilité de cette organisation mondiale de sœurs. J'espère que ce que je vais dire leur donnera, à elles et à toutes les personnes qui écouteront ou liront ce message, une compréhension claire de ce que le Seigneur avait à l'esprit pour ses filles lorsque la Société de Secours a été organisée. J'espère que mes petites filles comprendront que la Société de Secours d'aujourd'hui est organisée selon un modèle qui existait dans l'Église. Lorsque le Sauveur a organisé son Église à l'époque du Nouveau Testament, les femmes ont participé de façon vitale à son ministère. Il a rendu visite à Marthe et Marie, deux de ses disciples les plus ferventes chez Marthe. Quand Marthe l'a écouté, il l'a servi selon la coutume de l'époque. Il l'a aidé à voir qu'elle pouvait faire plus que cela. Il a aidé Marthe et Marie à comprendre qu'elles pouvaient choisir la bonne part qui ne leur serait pas ôtée. Ce gentil commentaire était une invitation à participer au ministère du Seigneur. Plus tard dans le Nouveau Testament, le fort témoignage de Marthe concernant la nature divine du Sauveur nous laisse entrevoir sa foi et son engagement. En poursuivant notre lecture du Nouveau Testament, nous apprenons que les apôtres ont continué d'établir l'Église du Seigneur. Nous faisons également la connaissance de femmes fidèles dont l'engagement a contribué à la progression de l'Église. Paul parle de femmes disciples qui se trouvaient dans des endroits tels que Éphèse et Philippe. Mais lorsque l'Église du Seigneur a été perdue avec l'apostasie, ce mode d'engagement a également été perdu. Quand le Seigneur a commencé à rétablir son Église par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, il a de nouveau inclus les femmes dans un type d'engagement. Quelques mois après l'organisation officielle de l'Église, le Seigneur a révélé qu'Emma Smith devait être mise à part comme dirigeante et instructrice dans l'Église, ainsi que comme aide officielle pour son mari, le prophète. Dans son appel à aider le Seigneur dans l'édification de son royaume, elle a reçu des instructions sur la manière d'augmenter sa foi et sa justice personnelle, de fortifier sa famille et son foyer, et de servir autrui. J'espère que mes petites filles comprendront que depuis le jour où l'Évangile a commencé à être rétabli dans cette dispensation, le Seigneur a eu besoin que des femmes fidèles participent à son œuvre en tant que disciples. Un exemple parmi d'autres de leur apport extraordinaire concerne l'œuvre missionnaire. Au début de l'Église, la grande progression qui a eu lieu a été possible grâce aux hommes fidèles qui ont accepté de quitter leur famille pour aller dans des endroits inconnus et subir des privations et des tribulations pour enseigner l'Évangile. Cependant, ces hommes comprenaient que leur mission n'aurait pas été possible sans la foi et le partenariat complet des femmes de leur vie, qui se sont occupées de leur foyer, de leur entreprise, et ont gagné de l'argent pour leur famille et les missionnaires. Les sœurs ont également pris soin des milliers de convertis qui se sont rassemblés dans leur localité. Elles étaient profondément engagées vis-à-vis d'un nouveau mode de vie, participant à l'édification du royaume du Seigneur et à son œuvre du salut. J'espère que mes petites filles comprendront que le Seigneur a inspiré Joseph Smith, le prophète, pour qu'il organise les femmes de l'Église sous l'égide de la prêtrise, selon le modèle de la prêtrise, et pour qu'il leur enseigne comment elles recevraient les faveurs, les bénédictions et les dons de la prêtrise. Quand la société de secours a officiellement été organisée, Emma Smith a continué son appel de dirigeante. Elle a été nommée présidente de l'organisation et deux conseillères ont œuvré à ses côtés dans la présidence. Au lieu d'être choisie par vote populaire, comme c'était souvent le cas dans les organisations en dehors de l'Église, les sœurs de cette présidence ont été appelées par révélation, soutenues par les personnes qu'elles dirigeraient et mises à part par les dirigeants de la prêtrise pour remplir leur appel, étant ainsi appelées de Dieu par prophétie et par l'imposition des mains de ceux qui détiennent l'autorité. Du fait qu'elle était organisée sous l'égide de la prêtrise, la présidence pouvait recevoir des directives du Seigneur et de ses prophètes pour une œuvre précise. Et l'organisation de la société de secours a permis au magasin du Seigneur, composé des talents, du temps et des moyens des saints, d'être géré avec sagesse et ordre. Ce premier groupe de femmes comprenait qu'il avait reçu l'autorité d'enseigner, d'inspirer et d'organiser les sœurs en tant que disciples pour participer à l'œuvre du salut du Seigneur. Au cours de leur première réunion, les sœurs ont reçu des enseignements sur les objectifs directeurs de la société de secours, faire grandir la foi et la justice personnelle, fortifier la famille et le foyer, et rechercher et aider les personnes dans le besoin. J'espère que mes petites filles comprendront que l'organisation de la société de secours était une partie essentielle de la préparation des saints pour recevoir les faveurs, les bénédictions et les dons que l'on ne trouve que dans le temple. Joseph Fielding Smith a enseigné que la société de secours joue un rôle essentiel dans le royaume de Dieu et qu'elle est conçue et gérée d'une manière telle qu'elle aide ses membres fidèles à obtenir la vie éternelle dans le royaume de notre Père. Nous pouvons imaginer ce que cela a dû être pour les sœurs dans le magasin en briques rouges de Joseph Smith lors de cette première réunion de la société de secours en face de la colline sur laquelle un temple était en cours de construction quand le prophète leur a enseigné qu'il devait y avoir une société à part de tous les maux du monde, choisie, vertueuse et sainte. J'espère que mes petites filles attachent beaucoup d'importance au temple, comme les sœurs de la première société de secours, qui croyaient que les bénédictions du temple étaient la grande récompense et le but élevé de toute sainte des derniers jours. J'espère que, comme les premières sœurs de la société de secours, mes petites filles s'efforceront chaque jour d'être suffisamment mûres pour contracter et respecter les alliances sacrées du temple, et que lorsqu'elles iront au temple, elles feront attention à tout ce qui est dit et fait. Grâce aux bénédictions du temple, elles seront armées de pouvoir et auront la bénédiction de recevoir la clé de la connaissance de Dieu. Grâce aux ordonnances de la prêtrise qui ne se trouvent qu'au temple, elles auront la bénédiction de remplir leurs responsabilités divines et éternelles et elles promettront de mener une vie de disciples engagés. Je suis reconnaissante que l'un des objectifs principaux du Seigneur dans l'organisation de la société de secours ait été de donner aux femmes la responsabilité de s'aider mutuellement à se préparer aux plus grandes bénédictions de la prêtrise qui se trouvent dans les ordonnances et les alliances du temple. J'espère que mes petites filles comprendront l'influence et la capacité importante de cette grande organisation mondiale de sœurs qu'est la Société de Secours. Depuis 1842, l'Église s'est répandue bien au-delà de nos voeux et la Société de Secours se trouve maintenant dans plus de 170 pays où les sœurs parlent plus de 80 langues différentes. Chaque semaine, de nouvelles paroisses et branches sont organisées et de nouvelles sociétés de secours rejoignent le cercle de sœurs en continuelle augmentation étendue sur les continents. Quand la Société de Secours comptait relativement peu de membres et qu'elle était principalement organisée en Utah, ses dirigeantes pouvaient concentrer principalement leur organisation et leur engagement de disciples sur les programmes sociaux locaux et sur le secours à apporter aux autres. Elles ont mis en place des industries artisanales et ont réalisé des projets de construction d'hôpitaux et d'entreposage de céréales. Ces premières initiatives de la Société de Secours ont donné naissance à des traditions de service qui sont maintenant appliquées dans le monde entier. À mesure que l'Église a grandi, la Société de Secours a pu atteindre ses objectifs dans chaque paroisse, dans chaque branche, dans chaque pieu et dans chaque district, tout en s'adaptant à un monde en constante évolution. Chaque jour, les sœurs de la Société de Secours du monde entier connaissent toute la gamme des difficultés et des expériences de la condition mortelle. Les femmes et les familles d'aujourd'hui se retrouvent face à face avec des attentes non satisfaites, des maladies mentales, physiques et spirituelles, des accidents et la mort. Certaines sœurs connaissent la solitude et la déception parce qu'elles n'ont pas de famille à elles. D'autres souffrent des conséquences de mauvais choix de membres de leur famille. Certaines ont connu la guerre, la faim ou des catastrophes naturelles. D'autres découvrent les tensions provoquées par les dépendances, le chômage ou un manque d'études et de formation. Toutes ces difficultés ont le potentiel de saper la foi et d'épuiser la personne et la famille. L'un des objectifs poursuivis par le Seigneur en organisant les sœurs en une société de disciples était d'apporter une aide qui leur enlèverait tout ce qui fait obstacle à la joie et à la progression de la femme. Dans chaque paroisse ou branche, il y a une société de secours avec des sœurs qui peuvent rechercher et recevoir la révélation et les recommandations des dirigeants de la prêtrise pour se fortifier mutuellement et trouver des solutions applicables à leur foyer et à leur collectivité. J'espère que mes petites filles comprendront que grâce à la Société de Secours, elles auront plus de possibilités d'agir en tant que disciples et qu'elles pourront s'engager avec d'autres dans une œuvre héroïque semblable à celle que le Seigneur a faite. Le genre d'œuvre qu'on demande aux sœurs de cette Église, c'est le genre d'œuvre qui est demandé aux sœurs de notre Église, n'a jamais semblé insignifiant, ni sans conséquence au Seigneur. Par leur fidélité, elles ressentent son approbation et reçoivent la bénédiction d'avoir la compagnie du Saint-Esprit. Il faut également que mes petites filles sachent que le cercle de sœurs de la Société de Secours peut être un abri, un refuge et une protection. Devant les difficultés grandissantes de notre époque, les sœurs fidèles de la Société de Secours aideront à protéger les foyers de Sion des voix criardes du monde et de l'influence prédatrice et provocatrice de l'adversaire. Par l'intermédiaire de la Société de Secours, elles seront enseignées et fortifiées. Et l'influence des femmes justes peut être une bénédiction pour beaucoup d'autres enfants de notre Père. J'espère que mes petites filles comprendront que les visites d'enseignement sont une expression de leur engagement de disciples et une manière importante d'honorer leurs alliances. Cet élément de notre fidélité peut ressembler beaucoup au ministère de notre Sauveur. Dans les premiers temps de la Société de Secours, un comité de visite de chaque paroisse recevait la responsabilité d'évaluer les besoins et de collecter les dons à distribuer aux personnes dans le besoin. Au fil des ans, les sœurs de la Société de Secours et leurs dirigeantes ont appris pas à pas et ont amélioré leur capacité de veiller sur les autres. À certains moments, les sœurs se sont davantage concentrées sur les visites à effectuer, les leçons à donner et les petits mots à laisser quand elles passaient chez leurs sœurs. Ces pratiques ont aidé les sœurs à instaurer des traditions de sollicitude, tout comme les gens de l'époque de Moïse qui se concentraient sur de longues listes de règles à suivre. Les sœurs de la Société de Secours se sont parfois imposées beaucoup de règles, écrites et non écrites, par souci de comprendre comment se fortifier les unes les autres. Aujourd'hui, où il existe un si grand besoin de secours dans la vie des sœurs et de leurs familles, notre Père Céleste a besoin que nous suivions un chemin plus élevé et que nous montrions que nous sommes ses disciples en nous souciant sincèrement de ses enfants. Avec cet objectif important à l'esprit, il est enseigné aux dirigeantes de demander les rapports sur le bien-être spirituel et temporel des sœurs et de leurs familles et sur les services rendus. Et les instructrices visiteuses ont la responsabilité d'apprendre sincèrement à connaître et à aimer chacune des sœurs, de les aider à fortifier leur foi et de leur rendre service. En tant que disciples engagés du Sauveur, nous augmentons notre capacité de faire ce qu'il ferait s'il était ici. Nous savons que pour lui, c'est notre sollicitude qui compte. Aussi, essayons-nous de nous concentrer sur le soin apporté à nos sœurs plutôt que sur des listes de choses à faire. Le véritable ministère se mesure plus à la profondeur de notre charité qu'à la perfection de nos statistiques. Nous saurons si nous réussissons dans notre ministère d'instructrice visiteuse, quand nos sœurs pourront dire « Mon instructrice visiteuse m'aide à progresser spirituellement ». Je sais que mon instructrice visiteuse se soucie sincèrement de moi et de ma famille. Et je sais que si j'ai des problèmes, mon instructrice visiteuse agira sans attendre d'y être invitée. Les dirigeantes qui comprennent l'importance de prendre soin des autres se concertent pour rechercher et recevoir la révélation sur la manière d'édifier les instructrices visiteuses et sur la manière d'organiser et d'accomplir leur ministère inspiré. De plus, les visites d'enseignement sont un prolongement de la responsabilité des évêques de prendre soin du troupeau du Seigneur. L'évêque et la présidente de la société de secours ont besoin du service d'instructrice visiteuse inspirée pour les aider à s'acquitter de leurs responsabilités. Par le ministère d'instructrice visiteuse, la présidente de la société de secours peut être informée du bien-être de chaque sœur de la paroisse et en faire rapport quand elle a un entretien avec son évêque. Thomas Monson nous a enseigné « Quand nous nous efforçons avec foi d'accomplir les devoirs qui nous incombent, sans faiblir, quand nous recherchons l'inspiration du Tout-Puissant dans l'accomplissement de nos responsabilités, nous pouvons faire des miracles. » J'espère que mes petites filles participeront à des miracles en faisant en sorte que les visites d'enseignement deviennent une tradition chez les disciples que le Seigneur approuvera quand il reviendra. Mes petites filles pourront maintenant étudier ces enseignements et d'autres leçons essentielles sur la société de secours dans le livre « Filles dans mon royaume, l'histoire et l'œuvre de la société de secours ». Il décrit l'héritage de la société de secours et des femmes de notre Église. Il unifiera les sœurs de notre organisation mondiale, les orientera vers les objectifs de la société de secours, ainsi que le mode de vie et les bénédictions des disciples. Ce livre témoigne du rôle essentiel des femmes dans le plan de bonheur de notre Père et représente un manifeste immuable de ce que nous croyons, de ce que nous faisons et de ce que nous défendons. La première présidence nous a incités à étudier ce livre et laisser les vérités intemporelles et les exemples inspirants qu'il contient influencer notre vie. Sachant que la société de secours avait été divinement instituée, Joseph F. Smith a dit aux sœurs de la société de secours « C'est à vous de mener le monde et particulièrement d'être à la tête des femmes de ce monde. Vous êtes la tête, pas la queue. » À l'approche du retour du Seigneur, j'espère que mes petites filles deviendront des femmes fortes et fidèles qui appliqueront les principes et les traditions de la société de secours. Une fois que la société de secours sera devenue un mode de vie pour elles, elles œuvreront dans l'unité avec d'autres pour accomplir ces objectifs divins. J'ai le témoignage de la véritable Église rétablie de Jésus-Christ et je suis reconnaissante du moyen d'agir en tant que disciple qui a été rétabli lorsque le Seigneur a inspiré Joseph Smith, le prophète, de fonder la société de secours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Sweet is the word, my God. Mon mari et moi avons récemment visité la ville de Nauvoo en Illinois. Nous nous sommes assis dans la pièce au premier étage du magasin de briques rouges qui servait de bureau et de commerce à Joseph Smith le prophète. Nous avons écouté attentivement le guide qui rappelait quelques événements du rétablissement qui y sont déroulés. J'ai pensé à l'établissement de la société de secours et à certains enseignements que les sœurs de la société de secours avaient reçus du prophète Joseph dans cette pièce. Ces enseignements sont devenus les principes fondamentaux sur lesquels la société de secours a été édifiée. Accroître la foi, fortifier les foyers de Sion et rechercher les nécessiteux pour les aider sont des objectifs fixés dès le début. Ils ont toujours été conformes aux priorités des prophètes. Lors de l'une de ses premières réunions, le prophète Joseph a cité une lettre de Paul aux Corinthiens. Dans son discours puissant sur la charité, Paul parle de la foi, de l'espérance et de la charité, concluant « Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ». Il décrit les qualités que comporte la charité. Il dit « La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse ». La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. S'adressant aux sœurs, le prophète Joseph a dit « Ne sous-estimez pas les vertus de votre prochain ». Si vous voulez agir comme Jésus, vous devez ouvrir votre âme aux autres. À mesure que vous progressez en innocence et en vertu, à mesure que vous progresserez en bonté, laissez votre cœur s'ouvrir. Laissez-le s'ouvrir aux autres. Vous devez être longanime et supporter les défauts et les erreurs de l'humanité, comme elle est précieuse l'âme des hommes. La déclaration scripturaire « La charité ne périt jamais » est devenue la devise de la société de secours parce qu'elle englobe ses enseignements et la mission que Joseph Smith a confiée aux sœurs de la société de secours, porter secours aux pauvres et sauver des âmes. Ces principes fondamentaux ont été suivis par les sœurs de la société de secours partout dans le monde, car telle est la nature de l'œuvre de la société de secours. Qu'est-ce que la charité ? Comment devient-on charitable ? Le prophète mormon définit la charité comme étant l'amour pur du Christ. Paul enseigne que la charité est le lien de la perfection. Et Néphi nous rappelle que le Seigneur Dieu a donné le commandement que tous les hommes doivent avoir la charité, et cette charité, c'est l'amour. En examinant la description de la charité donnée ci-dessus par Paul, nous apprenons que la charité n'est pas un acte unique ou quelque chose de donné, mais un état de l'être, un état du cœur, des sentiments de bonté qui engendrent des actions aimantes. Mormon enseigne aussi que la charité est accordée aux vrais disciples du Seigneur et qu'elle purifie ceux qui la possèdent. De plus, nous apprenons que la charité est un don divin que nous devons rechercher et pour lequel nous devons prier. Nous devons avoir la charité pour hériter du royaume céleste. Comprenant que le Seigneur nous a demandé « Revêtez-vous comme d'un manteau du lien de la charité », nous devons demander quelles qualités vont nous aider à acquérir la charité. Nous devons premièrement avoir le désir de devenir plus charitable et davantage semblable au Christ. L'étape suivante est la prière. Mormon nous exhorte « Priez le Père de toute l'énergie de votre cœur afin d'être rempli de cet amour ». Cet amour selon Dieu est la charité. Et si nous sommes remplis de cet amour, nous serons semblables à lui. Par la lecture quotidienne des Écritures, nous pouvons avoir le Sauveur à l'esprit et le désir de lui ressembler davantage. Dans mon bureau, j'ai accroché un tableau de Minerva Teicher intitulé « Au secours de l'agneau égaré ». On y voit le Sauveur au milieu de ses brebis, tenant tendrement un petit agneau dans ses bras. Cela m'aide à penser à la supplication « Paie mes brebis », qui signifie pour moi s'occuper de tous les gens qui nous entourent, et particulièrement de ceux qui sont dans le besoin. Le Sauveur est l'exemple parfait de la manière de faire preuve de charité. Durant son ministère, dans sa condition mortelle, il a fait preuve de compassion pour les affamés, les pécheurs, les affligés et les malades. Il s'est occupé des pauvres et des riches, des femmes, des enfants et des hommes, de sa famille, de ses amis et d'étrangers. Il a pardonné à ses accusateurs et il a souffert et il est mort pour tout le genre humain. Tout au long de sa vie, Joseph Smith, le prophète, a aussi pratiqué la charité en ayant un amour fraternel et du respect pour autrui. Il était bien connu pour sa gentillesse, son affection, sa compassion et son souci des gens qui l'entouraient. Aujourd'hui, nous avons la bénédiction d'avoir un prophète qui personnifie la charité. Le président Monson est un exemple pour nous et pour le monde. Il porte le manteau de la charité. Il est bon, compatissant et généreux. Un véritable ministre du Seigneur Jésus-Christ. Il enseigne la charité, c'est d'être patient avec quelqu'un qui nous a déçus. C'est résister à la tendance à s'offenser facilement. C'est accepter les faiblesses et les imperfections. C'est accepter les gens comme ils sont vraiment. C'est de voir au-delà de l'apparence physique les qualités qui ne s'estomperont pas avec le temps. C'est résister à l'envie de mettre les autres dans des catégories. Quand nous avons la charité, nous sommes prêts à rendre service et à aider quand cela ne nous arrange pas et sans attendre reconnaissance ou de réciprocité. Nous n'attendons pas qu'on nous demande d'aider parce que cela fait partie de notre nature. En choisissant d'être bonne, attentionnée, généreuse, patiente, prête à accepter, à pardonner, à accueillir et désintéressée, nous découvrons que nous abondons en charité. La société de secours fournit d'innombrables occasions de rendre service. L'un des moyens les plus importants de pratiquer la charité est les visites d'enseignement. Par des visites d'enseignement efficaces, nous avons de nombreuses occasions d'aimer, de soutenir et de rendre service. Exprimer de la charité ou de l'amour purifie et sanctifie notre âme, ce qui nous aide à devenir davantage semblables au Sauveur. Je suis émerveillé par les innombrables actes de charité accomplis chaque jour partout dans le monde par des instructrices visiteuses qui répondent généreusement aux besoins de sœurs et de leurs familles. Je dis à ces instructrices visiteuses fidèles, par ces petits actes de charité, vous suivez le Sauveur et vous êtes des instruments entre ses mains. Quand vous aidez, aimez, soutenez, consolez, écoutez, encouragez, entourez, instruisez et fortifiez les sœurs qui vous sont confiées. En voici quelques brefs exemples. Rosa souffre d'un diabète handicapant et d'autres maladies. Elle s'est fait baptiser il y a quelques années. Elle élève seule son fils adolescent. Elle doit fréquemment être hospitalisée pendant quelques jours. Ces gentilles instructrices visiteuses non seulement l'emmènent à l'hôpital, mais aussi lui rendent visite et la réconfortent à l'hôpital tout en veillant sur son fils, chez lui et à l'école. Ces instructrices visiteuses lui servent d'amis et de famille. Après quelques visites à une sœur, Cathy découvre que celle-ci ne sait pas lire, mais veut apprendre. Elle lui propose de l'aider tout en sachant que cela va prendre du temps et demander de la patience et de la constance. Emily est une jeune épouse qui recherche la vérité. Son mari, Michael, est moins intéressé par la religion. Quand Emily tombe malade et doit être hospitalisée, Callie, une sœur de la société de secours qui est sa voisine, apporte des repas à la famille, s'occupe du bébé, fait le ménage et prend des dispositions pour qu'Emily reçoive une bénédiction de la prêtrise. Ces actes de charité adoucissent le cœur de Michael. Il décide d'assister aux réunions de l'Église et de rencontrer les missionnaires. Emily et Michael se sont fait récemment baptiser. La charité ne périt jamais. Elle est pleine de bonté, ne recherche pas son intérêt, supporte tout, endure tout. Henry B. Eyring a dit, l'histoire de la société de secours est pleine de récits de ce genre de remarquables services désintéressés. Cette société est composée de femmes dont les sentiments charitables viennent du changement de cœur qu'elles ont connu parce qu'elles se sont qualifiées pour contracter et qu'elles respectent les alliances qui sont offertes uniquement dans la véritable Église du Seigneur. Ces sentiments charitables viennent du Sauveur par son expiation. Dans leurs actes charitables, elles sont guidées par son exemple. Ils sont inspirés par leur reconnaissance pour son don infini de la miséricorde et par le Saint-Esprit qu'il envoie pour accompagner ses servantes dans leur mission miséricordieuse. Grâce à cela, elles ont accompli et peuvent accomplir des choses extraordinaires pour les autres et trouver de la joie même quand elles ont de grands besoins insatisfaits. Quand nous rendons service et que nous faisons preuve de charité, cela nous aide à surmonter nos propres difficultés qui nous semblent alors moins difficiles. Je reviens maintenant aux enseignements donnés par le prophète Joseph aux sœurs dans les premiers temps du rétablissement. Exhortant à pratiquer la charité et la bienveillance, il a dit « Si vous vivez à la hauteur de ces principes, comme votre récompense sera grande et glorieuse dans le royaume céleste. Si vous vivez à la hauteur de ce à quoi vous avez droit, on ne pourra empêcher les anges d'être avec vous. » Dans les premiers jours de Nauvoo, les sœurs recherchaient les gens dans le besoin pour les aider, et il en est de même aujourd'hui. Les sœurs du royaume sont d'un grand soutien spirituel dans le domaine spirituel, le service compatissant et le dévouement. Des instructrices visiteuses dévouées se rendent visite et prennent soin les unes des autres. Elles suivent l'exemple du Sauveur en faisant comme lui. Toutes les femmes de la société de secours peuvent être remplies d'amour, sachant que leurs petits actes de charité ont un pouvoir guérisseur pour autrui et pour elles-mêmes. Elles apprennent à coup sûr que la charité est l'amour pur du Christ et ne périt jamais. En lisant l'histoire de la société de secours, vous serez inspiré de découvrir que ce principe important de l'Évangile est un thème qui sous-entend le livre tout entier. Je termine en demandant à toutes les femmes de l'Église de supplier Dieu de leur accorder le désir d'être remplies du don de la charité, l'amour pur du Christ. Faites tout ce que vous pouvez pour faire le bien, apporter du secours et le salut aux gens qui vous entourent, notamment à votre famille. Le Seigneur couronnera vos efforts de succès. Puisse notre connaissance du grand amour du Père et du Fils pour nous, notre foi et notre reconnaissance pour l'expiation, nous pousser à acquérir et à exercer la charité envers toutes les personnes qui nous entourent. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Lift up thy heart and rejoice.
Ton cœur et réjouis-toi et attache-toi aux alliances que tu as faites. Je ne peux pas lire cette écriture sans ressentir de la joie. Je me réjouis en pensant aux promesses et aux nombreuses bénédictions que j'ai reçues, en m'efforçant de m'attacher aux alliances que j'ai faites avec mon Père Céleste. Mon père et ma mère sont décédés. Il a donc fallu cette année nettoyer leur maison avant de la mettre en vente. Durant ces derniers mois, en nettoyant et triant avec mes frères et sœurs dans la maison de mes parents, nous avons trouvé des histoires familiales et de nombreux papiers et documents importants. Nous avons été fascinés par la lecture des histoires personnelles et des bénédictions patriarcales de mes parents et de mes grands-parents. Cela m'a rappelé les alliances qu'ils ont faites et respectées. Ma grand-mère, Ellen Hanks Rimmer, était une jeune mère quand elle a reçu sa bénédiction patriarcale en 1912. Quand j'ai lu sa bénédiction, les lignes suivantes m'ont sauté aux yeux et me sont restées à l'esprit. Tu as été choisi avant la fondation de la terre et tu étais un esprit choisi pour venir à notre époque. Ton témoignage sera magnifié et tu pourras témoigner. Le destructeur a cherché à te détruire, mais si tu t'attaches à ton Dieu, il n'aura pas le pouvoir de te détruire. Par ta fidélité, tu auras un grand pouvoir et le destructeur fuira loin de toi à cause de ta justice. Quand tu rencontreras la peur et les épreuves, si tu te retires pour prier dans ton lieu secret, tu seras consolé et les obstacles seront ôtés. Il a été promis à ma grand-mère que, si elle respectait ses alliances et restait proche de Dieu, Satan ne pourrait avoir aucun pouvoir sur elle. Elle recevrait de la consolation et de l'aide dans ses épreuves. Ses promesses se sont accomplies dans sa vie. Aujourd'hui, je vais parler de l'importance de s'attacher aux alliances et de la joie et de la protection qui découlent du respect de nos alliances. Certains des exemples que je vais utiliser sont tirés de « Filles dans mon royaume », l'histoire et l'œuvre de la Société de secours. Ce livre est rempli d'exemples de femmes qui ont trouvé beaucoup de joie à respecter leurs alliances. Le guide des Écritures nous dit qu'une alliance est un accord entre Dieu et l'homme. Dieu impose les conditions de l'alliance, les hommes acceptent. On reçoit les principes et les ordonnances de l'Évangile par alliance, ayant ainsi l'obligation importante et la grande responsabilité d'honorer l'engagement. Dans l'expression « s'attacher aux alliances », le mot « s'attacher » signifie « adhérer fermement à quelque chose ». Les Écritures parlent d'hommes et de femmes qui ont fait des alliances avec Dieu. Celui-ci a dit ce qu'il fallait faire pour honorer ses alliances. Puis, quand ces alliances ont été respectées, les bénédictions promises ont suivi. Par exemple, par l'ordonnance du baptême, nous faisons une alliance avec notre Père Céleste. Nous nous préparons au baptême en ayant foi au Seigneur Jésus-Christ, en nous repentant de nos péchés et en étant désireux de prendre sur nous le nom du Christ. Nous nous engageons à garder les commandements de Dieu et à nous souvenir toujours du Sauveur. Nous faisons alliance de porter les fardeaux les uns des autres afin qu'ils soient légers. Nous nous disons disposés à pleurer avec ceux qui pleurent et à consoler ceux qui ont besoin de consolation. Dans les saints temples, on reçoit d'autres ordonnances sacrées et on contracte d'autres alliances. Dans les premiers jours du rétablissement, Joseph Smith, le prophète, souhaitait vivement que les saints reçoivent les bénédictions promises du temple. Le Seigneur a dit « Que cette maison soit bâtie à mon nom, afin que je puisse y révéler mes ordonnances à mon peuple ». Un des objectifs du Seigneur, quand il a organisé la Société de secours, est de préparer ses filles aux bénédictions supérieures de la prêtrise qui résident dans les ordonnances et les alliances du Temple. Les sœurs de Nauvoo attendaient avec joie, une joie immense, l'achèvement du Temple, car elles savaient que, comme Joseph Smith, le prophète, l'avait promis à Mercy Fielding Thompson, la dotation allait les faire passer de l'obscurité à une lumière merveilleuse. Après la consécration du temple de Nauvoo, plus de 5000 saints y affluèrent afin de pouvoir y recevoir la dotation et l'ordonnance du scellement avant de se mettre en route vers la vallée du lac Salé. Brigham Young, de nombreux dirigeants de l'Église et des servants du temple ont passé leur temps, jour et nuit, à servir dans le temple pour que cette œuvre importante puisse être accomplie pour les saints. Nos alliances nous soutiennent dans les bons moments ou les difficultés. Boyd K. Packer nous rappelle que nous sommes un peuple d'alliance. Nous faisons alliance de donner de nos moyens en temps, en argent et en talent. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons dans l'intérêt du royaume de Dieu sur la terre. Pour parler plus simplement, nous faisons alliance de faire le bien. Nous sommes un peuple d'alliance et le temple est le centre de nos alliances. Il est la source de l'alliance. Les Écritures nous rappellent, et ce sera là notre alliance que nous marcherons dans toutes les ordonnances du Seigneur. Grandes sont les bénédictions que nous recevons si nous nous attachons à nos alliances. Dans le livre de Mormon, nous lisons le sermon du roi Benjamin. Il y enseigne au peuple que Jésus-Christ viendra sur la terre et souffrira toutes sortes d'afflictions. Il lui enseigne que le Christ va expier pour les péchés de tout le genre humain et que son nom est le seul par lequel l'homme peut obtenir le salut. Après avoir écouté ces beaux enseignements, la multitude s'humilie et désire de tout son cœur être libérée du péché et être purifiée. Elle se repent et exprime sa foi en Jésus-Christ. Elle fait alliance avec Dieu de garder ses commandements. L'Esprit du Seigneur vint sur elle et elle fut remplie de joie, ayant reçu le pardon de ses péchés et ayant la conscience en paix à cause de la foi extrême qu'elle avait en Jésus-Christ. qui allait venir. Amon est lui aussi un exemple de la joie qui découle de la fidélité à respecter les commandements de Dieu et à répandre l'Évangile. Amon et ses frères ont aidé des milliers de gens à aller au Christ. Voici quelques-uns des mots utilisés par Amon pour décrire ses sentiments quand tous ces gens se sont fait baptiser et ont fait des alliances avec Dieu. Comme nous avons lieu de nous réjouir. Ma joie est pleine. Oui, mon cœur déborde de joie et je me réjouirai à cause de mon Dieu. Je ne peux pas dire la plus petite partie de ce que je ressens. Il n'y a jamais eu d'homme qui ait eu autant de lieux de se réjouir que nous. Contracter et respecter des alliances sacrées nous permet d'avoir la compagnie du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui remplira notre homme de joie. La Deuxième Guerre mondiale a causé beaucoup de souffrances à beaucoup de gens dans le monde. Les saints d'Allemagne ont eu de nombreuses épreuves. Il y avait à Stuttgart une présidente de la société de secours fidèle appelée Maria Spedel. En parlant de leurs épreuves, elle a dit « Notre confiance au Seigneur et le témoignage que nous avons de son Église ont été notre force. Avec joie, nous chantons les chants de Sion et plaçons notre confiance dans le Seigneur. Il supplée à tout. » Encore une fois, en respectant leurs alliances, des membres ont ressenti la joie même face à de terribles épreuves. Sarah Rich était une femme juste de Nauvoo qui a été appelée à servir dans le temple avant que les saints soient expulsés de la ville. Voici ce qu'elle a dit des bénédictions du temple. Nous avions reçu de nombreuses bénédictions dans la maison du Seigneur, ce qui a été pour nous une source de joie et de réconfort au milieu de tous nos chagrins et nous a permis d'avoir foi en Dieu, sachant qu'il nous guiderait et nous soutiendrait pendant le voyage inconnu qui nous attendait. Auparavant, les saints avaient terminé le temple de Kirtland et beaucoup avaient participé à la consécration. Après la consécration, le temple avait été reçu par le Seigneur. Il leur avait dit d'être dans une grande allégresse à cause des bénédictions qui allaient être déversées sur la tête de son peuple. On a construit de plus en plus de saints temples sur la terre et j'ai vu les bénédictions qui se déversent sur les membres. En 2008, j'ai vu la joie d'un couple d'Ukraine qui me disait qu'il allait à Freiberg, en Allemagne, pour recevoir les ordonnances du temple. Il fallait à ses membres dévouer 27 heures de quart pour aller au temple et autant pour revenir. Et ils ne pouvaient pas y aller souvent. Ils étaient heureux de savoir que le temple de Kiev allait bientôt être terminé et qu'ils pourraient y aller beaucoup plus souvent. Ce temple est maintenant ouvert et des milliers de gens y reçoivent les bénédictions. En lisant l'histoire personnelle de ma grand-mère, j'ai appris la grande joie que lui procuraient ses alliances. Elle aimait aller au temple et accomplir les ordonnances pour des milliers de personnes décédées. C'était la mission de sa vie. Elle a été servante du temple pendant plus de 20 ans dans le temple de Demanti, en Utah. Elle a écrit qu'elle a vu de nombreuses guérisons miraculeuses en élevant ses enfants et en servant autrui en accomplissant des ordonnances dans le temple. Nous, ses petits-enfants, s'il y a quelque chose que nous savons au sujet de grand-mère Rimer, c'est qu'elle était une femme juste, qui respectait ses alliances et voulait que nous fassions de même. Quand des gens vont trier nos affaires après notre mort, vont-ils trouver la preuve que nous avons respecté nos alliances? Thomas S. Monson, notre prophète bien-aimé, nous a dit lors de la dernière conférence générale, en allant au temple, vous et moi, dans les saintes maisons de Dieu, et en nous souvenant des alliances que nous y contractons, nous serons davantage capables de supporter toutes les épreuves et de surmonter toutes les tentations. Dans ces sanctuaires, nous trouverons la paix. Nous serons ressourcés et fortifiés. Je le répète, élevons notre cœur et réjouissons-nous et attachons-nous aux alliances que nous avons faites. Respecter les alliances est la véritable joie et le véritable bonheur. C'est la consolation et la paix. C'est la protection contre les maux du monde. Le respect de nos alliances nous aidera dans les moments d'épreuve. Je témoigne que si nous avons foi en Christ et si nous nous attachons à nos alliances, nous recevrons la joie dont il est parlé dans les Saintes Écritures et qui est promise par nos prophètes modernes. Chères sœurs, je vous aime et j'espère que vous ressentirez personnellement cette grande joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous remercions le chœur et les musiciens de leur participation et toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de cette réunion. Nous aurons maintenant l'honneur d'écouter Dieter F. Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence. Après son discours, le chœur chantera « Vivons ce bonheur ». Sandra Rogers, membre du bureau général de la Société de secours, fera ensuite la prière de clôture. Le président Uhrdorf.
Mes chères sœurs, c'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. J'attends toujours avec impatience cette réunion générale de la Société de secours et les messages qui y sont donnés. Merci, sœurs. C'est un grand honneur pour moi d'adresser quelques mots aux sœurs de l'Église. Il y a quelque temps, je traversais un beau jardin avec ma femme et ma fille. Je m'émerveillais devant la splendeur et la beauté de la création de Dieu. Puis j'ai remarqué, parmi toutes les fleurs splendides, une fleur tout ce qu'il y a de plus minuscule. Je connais le nom de cette fleur parce que, depuis l'enfance, j'ai avec elle une relation pleine de tendresse. Cette fleur, c'est le myosotis, qu'on appelle aussi « ne m'oubliez pas ». Je ne sais pas au juste pourquoi cette petite fleur a revêtu autant de signification pour moi au cours des années. Elle n'attire pas immédiatement l'attention. Elle passe presque inaperçue et elle est facile à oublier au milieu de fleurs plus grandes, aux couleurs plus vives. Pourtant, elle est tout aussi belle, avec sa riche couleur qui reflète celle des cieux d'azur. Peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles je l'aime autant. Et il y a la supplication obsédante de son nom. Selon une légende allemande, Dieu venait de finir de nommer toutes les plantes, excepté une. Une toute petite voix se fit entendre. « Ne m'oublie pas, ô Seigneur !» Et Dieu répondit que ce serait son nom. Ce soir, j'aimerais utiliser cette fleur comme métaphore. Les cinq pétales du petit « Ne m'oubliez pas » m'incitent à réfléchir à cinq choses qu'il serait sage de ne jamais oublier. Premièrement, n'oubliez pas d'être patiente envers vous-même. Je vais vous dire quelque chose que j'espère vous prendrez bien. Dieu sait parfaitement que vous et moi ne sommes pas parfaits. J'ajouterai qu'il sait aussi parfaitement que les gens que vous estimez parfaits ne le sont pas. Et pourtant, nous passons tellement de temps et d'énergie à nous comparer aux autres, en particulier à comparer nos faiblesses à leurs points forts. Cela crée en nous des attentes qui sont impossibles à satisfaire. En conséquence, nous ne nous réjouissons jamais de nos efforts méritants parce qu'ils semblent être inférieurs à ceux de quelqu'un d'autre. Tout le monde a des points forts et des points faibles. Ce qui est merveilleux, c'est que vous avez des points forts. Et cela fait partie de votre condition mortelle d'avoir des faiblesses. Dieu veut nous aider à transformer finalement tous nos points faibles en points forts. Mais il sait que c'est un objectif à long terme. Il veut que nous devenions parfaits, comme lui. Et si nous restons ses disciples, c'est ce que nous deviendrons un jour. Ça ne fait rien que vous ne le soyez pas encore tout à fait. Persévérez pour le devenir, mais cessez de vous punir. Chères sœurs, beaucoup d'entre vous sont infiniment compatissantes et patientes avec les points faibles des autres. Alors n'oubliez pas d'être aussi compatissantes et patientes avec vous-même. Entre-temps, soyez reconnaissantes pour tous les petits succès à la maison, dans vos relations familiales, vos études, votre métier, votre participation à la vie de l'Église ou vos progrès personnels. Comme les « ne m'oubliez pas », ces succès peuvent vous sembler minuscules et les autres peuvent ne pas les remarquer, mais Dieu les remarque et ils ne sont pas petits pour lui. Si vous pensez que seule la rose la plus parfaite ou l'orchidée la plus éblouissante représente le succès, vous risquez de passer à côté de certaines des plus belles expériences de la vie. Par exemple, vouloir à tout prix que la soirée familiale hebdomadaire soit un modèle de perfection, bien que cela vous rende malheureuse, ainsi que tout le monde autour de vous, n'est probablement pas le meilleur choix. Demandez-vous plutôt qu'est-ce que notre famille pourrait faire d'agréable et de spirituel qui nous rapprocherait. Ce type de soirée familiale, même s'il est d'une envergure et d'une exécution modeste, pourrait avoir des résultats à long terme beaucoup plus positifs. Notre voyage vers la perfection est long, mais nous pouvons trouver de l'émerveillement et de la félicité même dans ses moindres étapes. Deuxièmement, n'oubliez pas la différence entre un sacrifice acceptable et un sacrifice absurde. Un sacrifice acceptable signifie le renoncement à quelque chose de bon pour quelque chose d'une valeur beaucoup plus grande. Renoncer à un peu de sommeil pour aider un enfant qui a un cauchemar est un sacrifice acceptable. Veiller toute la nuit au péril de sa santé pour fabriquer l'accessoire parfait d'une tenue du dimanche pour une de ses filles n'est peut-être pas un sacrifice aussi acceptable. consacrer une partie de son temps à étudier les Écritures ou à se préparer à faire une leçon est un sacrifice acceptable. Passer de nombreuses heures à broder le titre de la leçon sur des cache-pots faits maison pour chaque membre de la classe ne le serait pas. Chaque personne et chaque situation sont différentes et un sacrifice acceptable dans un cas pourrait être absurde dans un autre. Comment faire la différence dans notre propre situation? Nous pouvons nous demander, est-ce que je consacre mon temps et mon énergie à ce qui a le plus d'importance? Il y a tant de bonnes choses à faire, mais nous ne pouvons pas les faire toutes. Ce qui plaît le plus à notre Père Céleste, c'est quand nous sacrifions quelque chose de bon pour quelque chose de bien meilleur dans une perspective éternelle. Quelquefois, cela peut même signifier prendre soin de petits mais jolis myosotis. Ne m'oubliez pas, au lieu d'un grand jardin de fleurs exotiques. Troisièmement, n'oubliez pas d'être heureuse maintenant. Dans l'histoire, chère aux enfants, Charlie et la chocolaterie, Willy Wonka, chocolatier excentrique, cache 5 billets d'or dans des barres de chocolat de sa fabrication et annonce que quiconque découvrira l'un des billets gagnera une visite guidée de son usine et une vie de sucrerie. Sur chaque billet d'or est écrit ce message. Félicitations aux chanceux qui a trouvé ce ticket d'or. Des choses fantastiques t'attendent, de nombreuses surprises extraordinaires t'attendent, des surprises mystérieuses et merveilleuses qui te feront plaisir, t'ébahiront et t'intrigueront. Dans ce classique pour enfants, des gens du monde entier désirent désespérément trouver un ticket d'or. Certains pensent que leur bonheur futur tout entier dépend de ce ticket d'or qu'ils espèrent trouver. Dans leur anxiété, les gens commencent à oublier la joie simple que leur procurait une barre de chocolat. La barre elle-même devient une immense déception si elle ne contient pas de billets d'or. Il y a aujourd'hui tant de gens qui attendent aujourd'hui leur propre ticket d'or, le billet qu'ils croient détenir, la clé du bonheur dont ils ont toujours rêvé. Pour les uns, le billet d'or peut être un mariage parfait. Pour d'autres, une maison de couverture de magazine. Pour d'autres encore, la fin du stress ou des soucis. Il n'y a rien de mal à avoir des aspirations justes. Nous espérons et nous recherchons tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Le problème survient quand nous mettons notre bonheur en suspens, pendant que nous attendons qu'un événement futur, notre ticket d'or, apparaisse. Il y avait une femme qui voulait plus que toute autre chose, épouser au temple un détenteur de la prêtrise digne et être une mère et une épouse. Elle en avait rêvé toute sa vie. Et oh, quelle mère merveilleuse, quelle épouse aimante elle serait. Sa maison serait remplie de bonté aimante, aucun mot acerbe n'y serait prononcé. Les repas ne seraient jamais brûlés. Ses enfants, au lieu de traîner avec leurs amis, préféreraient passer leur soirée et leur week-end avec papa et maman. C'était son ticket d'or. C'était la chose par excellence dont dépendait, selon elle, toute son existence. C'était la seule chose au monde à laquelle elle aspirait de toutes ses forces. Mais cela ne s'est jamais produit, et au fil des ans, elle s'est de plus en plus isolée, remplie d'amertume et même de colère. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Dieu ne lui accordait pas ce désir juste. Elle était institutrice, et le fait de fréquenter des enfants à longueur de journée ne faisait que lui rappeler que son billet d'or ne s'était jamais matérialisé. Avec les années, sa déception et son isolement augmentèrent. Les gens n'aimaient pas se trouver en sa présence et l'évitaient chaque fois qu'ils le pouvaient. Elle reportait même sa frustration sur les enfants à l'école. Elle s'énervait et alternait entre les accès de colère et les moments de solitude désespérante. La tragédie de cette histoire est que cette brave dame, au milieu de sa déception concernant son billet d'or, ne se rendait pas compte des bénédictions qu'elle avait reçues. Elle n'avait pas d'enfants à la maison, mais elle était entourée par eux dans sa salle de classe. Elle n'avait pas la bénédiction d'avoir une famille, mais le Seigneur lui avait donné une occasion que peu de gens ont, la chance d'influencer en bien la vie de centaines d'enfants et de familles en tant qu'institutrice. La leçon qu'il faut retenir, c'est que si nous passons nos journées à attendre des roses fabuleuses, nous risquons de ne pas voir la beauté et la merveille que sont les minuscules myosotis, ne m'oubliez pas, qui nous entourent. Cela ne veut pas dire que nous devons abandonner tout espoir ou revoir à la baisse nos objectifs. Ne cessez jamais de rechercher ce qu'il y a de meilleur en vous. Ne cessez jamais d'espérer la réalisation de toutes les aspirations légitimes de votre cœur. Mais ne fermez pas les yeux et le cœur aux beautés simples et élégantes des moments ordinaires de chaque jour qui constituent une vie riche et bien vécue. Les personnes les plus heureuses que je connaisse ne sont pas celles qui trouvent leur billet d'or. Ce sont celles qui, tandis qu'elles s'efforcent d'atteindre des objectifs de valeur, découvrent et chérissent la beauté et la douceur des événements de tous les jours. Ce sont celles qui, jour après jour, fil après fil, tissent une tapisserie faite de gratitude et d'émerveillement tout au long de leur vie. Ce sont les personnes vraiment heureuses. Quatrièmement, n'oubliez pas la raison d'être de l'Évangile. Quelquefois, dans la routine de notre vie, nous négligeons, sans le vouloir, un aspect essentiel de l'Évangile de Jésus-Christ, de la même façon qu'on pourrait négliger un joli et délicat « ne m'oubliez pas ». Dans nos efforts diligents pour remplir tous les devoirs et obligations que nous avons en tant que membres de l'Église, nous considérons quelquefois l'Évangile comme une longue liste de tâches que nous devons ajouter à notre liste de choses à faire, déjà saturées, ou un élément que nous devons caser d'une manière ou d'une autre dans nos emplois du temps chargés. Nous nous concentrons sur ce que le Seigneur veut que nous fassions et sur la manière de l'accomplir. Mais nous en oublions parfois la raison. Mes chères sœurs, l'Évangile de Jésus-Christ n'est pas une obligation. C'est un chemin, balisé par notre Père aimant, qui conduit dans cette vie au bonheur et à la paix, et dans la vie à venir, à la gloire et un épanouissement inexprimable. C'est une lumière qui pénètre la condition mortelle et illumine le chemin qui s'ouvre devant nous. S'il est nécessaire de comprendre le contenu et le comment de l'Évangile, c'est néanmoins du pourquoi que jaillissent la flamme et la majesté de l'Évangile. Quand nous comprenons pourquoi notre Père Céleste nous a donné ce modèle de vie et que nous nous rappelons pourquoi nous avons pris l'engagement d'en faire une partie fondamentale de notre vie, alors l'Évangile cesse de devenir un fardeau et devient au contraire une joie et un plaisir. Il devient précieux et agréable. Ne suivons pas le chemin tracé par le Sauveur, les yeux rivés au sol, avec pour seule pensée les tâches et les obligations qui nous attendent. Ne cheminons pas oublieux de la beauté des paysages terrestres et spirituels splendides qui nous entourent. Chères sœurs, je suggère que vous recherchiez la majesté, la beauté et la joie sublime du pourquoi de l'Évangile de Jésus-Christ. Les raisons et la manière de notre obéissance balisent le chemin et nous maintiennent dans la bonne direction. La raison de notre obéissance sanctifie nos actes et transforme le quotidien en quelque chose de majestueux. Elle magnifie nos simples actes d'obéissance et les sacralise. Cinquièmement, n'oubliez pas que le Seigneur vous aime. Quand j'étais enfant et que je regardais les petits myosotis, je me sentais parfois un peu semblable à cette fleur, petit et insignifiant. Je me demandais si ma famille ou mon père céleste m'oublierait. Des années plus tard, je repense avec tendresse et compassion à ce jeune garçon. Je sais maintenant, avec assurance, que je n'ai jamais été oublié. Et je sais quelque chose d'autre. En tant qu'apôtre de Jésus-Christ, notre Maître, je proclame avec toute la certitude et la conviction de mon cœur que vous non plus. Vous n'êtes pas oubliés. Sœurs, où que vous soyez, quelles que soient les circonstances que vous connaissez, vous n'êtes pas oubliés. Aussi sombres que puissent paraître vos journées, aussi insignifiantes que vous ayez le sentiment d'être, aussi éclipsés que vous pensiez être, votre Père Céleste ne vous a pas oublié. En réalité, il vous aime d'un amour infini. Réfléchissez à ceci. L'être le plus majestueux, le plus puissant et le plus glorieux de l'univers vous connaît et se souvient de vous. Vous êtes aimé par le roi de l'espace infini et du temps éternel. Celui qui a créé et connaît les étoiles vous connaît et sait votre nom. Vous êtes les filles de son royaume. Le psalmiste a écrit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dieu vous aime, sœur, parce que vous êtes son enfant. Il vous aime même si vous vous sentez de temps en temps seul ou que vous faites des erreurs. L'amour de Dieu et le pouvoir de l'Évangile rétabli ont un effet rédempteur et salvateur. Si seulement vous permettez que son amour divin ait une place dans votre vie, il peut soigner n'importe quelle plaie, guérir n'importe quelle blessure et adoucir tout chagrin. Mes chères sœurs de la Société de Secours, vous êtes plus proches des cieux que vous ne le pensez. Vous êtes destinés à quelque chose qui dépasse votre imagination. Continuez de grandir en foi et en justice personnelle. Acceptez l'Évangile rétabli de Jésus-Christ comme votre mode de vie. Chérissez le don d'être pratiquant dans cette grande Église. Accordez de la valeur au service dans l'organisation bénie de la Société de Secours. Continuez de fortifier le foyer et la famille. Continuez de rechercher et d'aider les personnes qui ont besoin de vous et de l'aide du Seigneur. Sœur, il y a quelque chose d'inspirant et de sublime dans le petit myosotis. La fleur, ne m'oubliez pas. J'espère qu'il sera un symbole des petites choses qui rendent votre vie joyeuse et agréable. N'oubliez jamais que vous devez faire preuve de patience et de compassion envers vous-même, que certains sacrifices sont meilleurs que d'autres, que vous n'avez pas besoin d'attendre un billet d'or pour être heureuse. N'oubliez jamais que la raison d'être de l'Évangile de Jésus-Christ vous inspirera et vous insufflera du courage. Et n'oubliez jamais que votre Père Céleste vous connaît, vous aime et vous chérit. Merci d'être ce que vous êtes. Merci pour les actes innombrables d'amour et de service que vous accomplissez pour tant de personnes. Merci pour tout ce que vous ferez encore pour apporter la joie de l'Évangile aux familles, à l'Église, à la collectivité et aux nations du monde. Sœurs, nous vous aimons. Je prie pour que vous n'oubliez jamais que vous êtes véritablement des filles précieuses dans le royaume de Dieu. Et je vous bénis pour cela, au nom sacré de notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Amen.
Beloved Heavenly Father,
notre bien-aimé Père Céleste, rassemblés en de nombreux endroits ce soir pour cette réunion particulière de la Société de Secours, nous, tes filles, te remercions. Nous te remercions du rétablissement de l'Évangile, du rétablissement des clés de la prêtrise, du rétablissement de ton organisation pour tes filles. Nous te remercions des pionnières de toutes les époques, dans tous les pays, dans toutes les familles, qui ont trouvé ta vérité et qui sont engagées à faire à accomplir ton œuvre dans ton royaume, une œuvre de salut, une œuvre de secours. Notre Père Céleste, Nous te remercions de cette présidence de la Société de Secours courageuse, des recommandations qu'elle nous donne. Nous te remercions, Père, des alliances et de l'occasion que nous avons de les contracter. Père, nous sommes émus par la confiance qui est donnée aux femmes de l'Église.
Our hearts on the altar, Father.
Et nous mettons notre cœur sur l'autel, Père, afin que nous puissions être capables d'accomplir les choses que tu attends de nous dans ton œuvre. Nous te remercions de ton Fils et de son sacrifice expiatoire. Nous sommes reconnaissantes de savoir que nous pouvons recevoir de la force en nous reposant sur lui. Nous te remercions de la puissance qui existe dans l'expiation de notre Sauveur. Et ce soir, Père, nous te remercions des recommandations que nous avons reçues de Frère Ohrdorf, du message qui va nous guider à bien agir. Bénis-nous, Père, dans tout ce que nous faisons dans nos familles, dans nos individuellement. Accorde-nous la force, Père, d'accomplir ensemble ton œuvre. Nous te remercions de toutes les bénédictions que tu nous accordes. Te remercions de l'amour que tu nous portes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.